Alors, pour aborder ce thème très général, nous allons d'abord nous intéresser à la présentation qui va être faite par Sandrine Lefranc. Sandrine Lefranc, elle est chargée de recherche CNRS et elle nous vient de l'Université de Paris-Ouest Nanterre. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on l'accueille ici cet après-midi. Et Sandrine Lefranc va nous faire une présentation qui a pour titre La vérité plutôt que la justice. Modalité contemporaine de sortie de conflits politiques. Sandrine, vous avez la parole.
Merci à vous. Je la prends. Est-ce qu'elle est perçue? Oui, apparemment. J'en profite pour vous remercier tous de la qualité de l'accueil qui me fait oublier que nous sommes dans un cadre universitaire, pour être tout à fait honnête, avec mes repères français assez misérables. Je veux juste. Vous m'entendez là? C'est mieux là. Davantage? D'accord. Donc vous voulez un tête-à-tête entre moi et le micro. Je m'y soumets. Je vais juste là tout de suite. Préciser que les choses que je vais évoquer de manière très panoramique et qui tiennent en fait à la présentation d'un dispositif particulier très à la mode aujourd'hui, qui est le dispositif de commission de vérité et de réconciliation, que la vérité populaire qui s'y incarne est une vérité populaire assez molle, c'est-à-dire au sens que l'on donne aujourd'hui au terme peuple dans l'univers international des ONG ou des organisations internationales, le peuple sous une forme très particulière, l'idée étant de faire délibérer un grand nombre sur le passé de violence, sur l'histoire. Le peuple n'y est pas tout à fait sous la forme que vous pourriez attendre compte tenu de la thématique générale. Ceci précisé, je vais encore vous donner quelques éléments vous expliquant sur quoi je travaille, parce que le panorama que je vais vous restituer par la suite ne le dit pas, ou plus exactement cache le travail qui est effectué, qui est un travail sociologique. Ce qui m'intéresse, moi, dans l'exploration de des sorties de conflits, des sorties de violences politiques, c'est d'essayer de travailler, de réexaminer nos convictions les mieux établies sur la manière dont il convient, après la violence politique, les crimes de masse, de reconstruire le rapport des sociétés à leur passé. Et ça suppose, par exemple, de réexaminer ces leitmotivs très souvent croisés, par exemple celui qui dit que celui qui oublie se condamne à répéter la violence, et plus largement l'idée que la vérité doit être établie de manière à ce qu'elle permette, à ce que ultérieurement on prévienne un éventuel retour de la violence. Donc ça, c'est une conviction très largement partagée, qui n'est pas forcément confirmée par les travaux des historiens sur les dynamiques de violence, et c'est ça que j'essaie de travailler. Ou autre conviction très, très largement partagée, cette idée qu'il convient au lendemain des grandes violences, des crimes de masse, de rendre hommage à la victime, et donc d'essayer de construire un lien social particulier qu'on pourrait qualifier de compassionnel, de victimaire, et c'est l'un des aspects que je vais évoquer tout à l'heure. Donc voilà mon point de départ, ma question initiale, c'est-à-dire d'où viennent ces convictions qui sont les nôtres sur la manière dont on peut reconstruire un passé, un rapport au passé de violence. Et j'essaye de travailler cette affaire-là en observant de manière sociologique donc la circulation des politiques de reconstruction des passés de violence et leurs effets locaux, mais aussi la manière dont ces politiques sont promues à une échelle internationale par des acteurs particuliers. Ce que je vais évoquer ici aujourd'hui, c'est de manière très synthétique, très panoramique, pas même en allant regarder un cas local. Ce qui est attendu d'un modèle, d'un dispositif de sortie de conflit qu'on appelle aujourd'hui la commission de vérité ou commission de vérité de réconciliation, commission de vérité dont on compte, semble-t-il, selon les experts, une trentaine d'expériences depuis les années 1980. Une trentaine d'expériences qui seraient l'emblème d'une nouvelle manière de faire la justice au sortir de conflits politiques, qu'on appelle la justice transitionnelle, et à chaque fois j'utiliserai des guillemets qu'il est possible que je marque dans l'air. Donc ce dispositif-là est celui qui m'intéresse. Et je vais essayer de vous le présenter en allant à rebours d'une interprétation très fréquemment présente dans l'univers qui est celui de l'expertise aussi bien que de l'université, enfin des experts universitaires en matière de sortie de conflit. L'une des hypothèses très fréquemment formulées est que ces commissions de vérité, dont on compte donc une trentaine d'expériences aujourd'hui, sont un autre indice du progrès de la justice pénale internationale et plus largement un autre indice d'un progrès décisif dans un effort de judiciarisation ou de juridicisation de ce qui était hier une justice politique ou une justice du vainqueur. L'idée est que avec les commissions de vérité et de réconciliation, en même temps qu'avec les tribunaux pénaux internationaux, on aurait fait un progrès très net dans la dans l'emprise du droit sur la définition de ces dispositifs de sortie de conflit et de reconstruction du rapport à dépasser de violence. C'est cette idée-là que je veux déjà essayer de nuancer. Je vais d'abord vous dire en quoi consistent ces commissions de vérité de réconciliation très, très brièvement. Ces commissions de vérité sont des institutions ad hoc, donc de court terme, qui sont le plus souvent, et c'est là déjà qu'on quitte le peuple, mises en place soit par des organisations internationales, soit par des gouvernements nationaux, aux fins d'établir une vérité, c'est le terme qui est employé, une vérité sur les faits de violence, et on utilise une expression particulière pour dire de quels faits de violence il s'agit, les violations les plus graves des droits de l'homme dans une période de temps donnée, et ça peut correspondre à une période de guerre civile comme de répression étatique. Donc des institutions ad hoc qui doivent dire ce qui s'est passé de manière synthétique et panoramique dans une période de temps, par exemple en Afrique du Sud, une période de 34 années, ou dans le cône sud latino-américain, la période qui a correspondu quelques années au régime militaire. Établir la vérité sur ces faits et le faire un peu à la manière des historiens, c'est-à-dire écrire des rapports qui sont remis au président de la République et qui correspondent, enfin qui pourraient correspondre à des travaux d'historiens dans les méthodes qu'elles utilisent, aussi bien que ces restitutions, aussi bien que dans le langage qui est le leur. Donc on a affaire à un exercice d'établissement d'une vérité qui diffère de la commission d'historiens ou de la commission parlementaire en ce qu'elle fait intervenir des personnes sélectionnées pour leur bonne réputation, pour leur capacité à être admises par le plus grand nombre et pour leur distance aussi vis-à-vis des choses politiques. Et ce sont des hommes d'église, ce sont des historiens, ce sont aussi beaucoup de juristes, donc des personnes qui sont là pour écrire une histoire d'une manière différente de celle qu'auraient employé des historiens au titre de leurs compétences professionnelles ou des parlementaires au titre de leur représentativité politique. Écrire la vérité, et écrire la vérité, c'est là la spécificité, c'est ce qui fait le caractère à certains égards populaire de ces dispositifs-là. Écrire la vérité aussi, et de plus en plus au cours de l'affinement de ce dispositif, en plus exactement des recommandations internationales pour ces commissions, pour ces politiques-là, affinement qui a voulu voir dans ces commissions le moyen de faire écrire l'histoire, non plus seulement par des experts, mais par le plus grand nombre, et d'abord par les victimes. C'est l'innovation principale qui est associée à l'expérience, au dispositif des commissions de vérité et de réconciliation. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai dit que je voulais partir de ce point de départ, de cette hypothèse qui me semble assez largement infondée, et qui veut voir dans ces commissions de vérité et de réconciliation une composante de la justice pénale internationale, soit qu'on considère qu'elle vienne compléter le travail des tribunaux en leur donnant un supplément d'âme, c'est-à-dire notamment en organisant des rituels qui vont rendre hommage et permettre la reconnaissance des victimes, voire, et ce sont des discours qui sont de plus en plus présents de manière très récente, en soulignant l'idée que les commissions de vérité vont s'intégrer à un dispositif plus complexe, c'est-à-dire qu'elles vont venir travailler aux côtés de tribunaux dans une logique un petit peu différente, avec l'idée d'un dispositif mixte, ou bien qu'elles vont elles-mêmes assumer une partie du travail judiciaire, par exemple lorsque la Commission de vérité et de réconciliation sud-africaine se voit chargée d'octroyer à titre individuel et sous des conditions très strictes une amnistie. Donc l'idée est que ces commissions de vérité, qui au départ sont pensées comme des espaces non judiciaires, deviennent, s'intègrent à un progrès plus général de la justice pénale, ou permettent d'attendre le moment où les rapports de force ou l'état du système judiciaire permettront, au lendemain par exemple de l'adoption d'une loi d'amnistie, permettront de revenir vers la justice. Donc l'idée générale, ou en tout cas l'idée défendue aujourd'hui, est que les commissions de vérité et de réconciliation viennent apporter leur part au travail de production d'une vérité judiciaire plus largement. Cette idée-là me semble assez largement infondée, dans la mesure où le plus souvent les commissions de vérité et de réconciliation viennent entériner des lois d'amnistie, viennent donc permettre, viennent même légitimer le contournement de la justice pénale ordinaire. Elles essayent d'en pallier les conséquences, par exemple en permettant aux victimes de parvenir à une forme de vérité sur ce qui est advenu de leurs proches ou ce qui leur est arrivé à elles-mêmes lorsqu'elles sont les victimes directes des faits de violence. Mais de manière générale, les commissions de vérité et de réconciliation sont là quand la justice n'y est pas, quand la justice pénale n'y est pas. Les commissions de vérité et de réconciliation, et donc ces dispositifs qui sont très fortement encouragés à l'échelle internationale depuis maintenant 30 ans, sont des dispositifs qui proposent initialement plutôt que la justice, plutôt que les sanctions pénales, de la vérité et des réparations à l'attention des victimes. Ce qui veut dire qu'à rebours de l'idée assez générale d'un progrès de la justice pénale internationale, les dispositifs les plus fréquemment utilisés à l'échelle nationale sont des dispositifs qui n'encouragent pas la production d'une vérité judiciaire, ou plus exactement, qui proposent une autre manière d'établir la vérité et de l'établir à des fins un petit peu particulières, qui sont des fins de reconnaissance de la victime, et d'une victime qui n'est pas désignée au terme d'un verdict judiciaire, reconnaissance des victimes ou stigmatisation, mais stigmatisation sociale, c'est-à-dire sans sanction pénale, des coupables. L'idée est bien de produire une vérité, non pas dans un espace judiciaire à partir de catégories juridiques, mais dans un espace du témoignage, sans confrontation de versions, c'est-à-dire à partir principalement de la parole des victimes. Au lieu d'un espace judiciaire public tenu par l'État avec des juges comme acteurs principaux, on a affaire, avec ces commissions de vérité, à un espace privatisé, en quelque sorte, où, plutôt que des juges, des avocats, des témoins et des représentants de l'État, on trouve des acteurs non gouvernementaux, on trouve des membres des commissions sélectionnés pour leur bonne réputation, pour leur valeur morale propre, on trouve aussi des victimes. Ce ne sont pas les mêmes personnages. Et de la même manière, plutôt que le tribunal produisant une vérité judiciaire, les commissions de vérité et de réconciliation sont mises en place par ces gouvernements pour produire un récit à des fins politiques très claires. Il s'agit de stabiliser un compromis politique, par exemple entre les anciens détenteurs du pouvoir sous une dictature militaire et les nouveaux élus démocratiques. Donc il s'agit bien de stabiliser très directement un compromis passé avec les sortants. Il s'agit aussi de démocratiser, il s'agit de pacifier une société, il s'agit enfin de prévenir une violence future. Donc les commissions de vérité, ce dispositif aujourd'hui très fréquemment recommandé aux pays qui sortent d'un conflit, ont un double objectif qui est d'abord celui de produire une forme de vérité historienne, ces rapports que j'ai évoqués tout à l'heure, un panorama de l'histoire construit sur la base de méthodes empruntées aux sciences sociales et particulièrement à l'historien, d'une part, et d'autre part, de produire une vérité au cas par cas, mais vérité au cas par cas qui est très différente de celle que produisent habituellement les tribunaux, dans la mesure où on va travailler sur quelques histoires particulières, sur quelques témoignages des victimes, à des fins d'illustration. On va travailler sur une vérité très éclatée. Et cette vérité-là, on va la travailler jusqu'au point où l'on va obtenir l'apaisement de la victime. C'est-à-dire pas la vérité, pas la production d'une vérité, et encore moins la production d'une sanction à l'encontre du coupable, mais l'apaisement, le soulagement de la victime, par exemple, lorsque l'on parvient à obtenir suffisamment de faits pour exhumer le corps d'un disparu dans le cône sud latino-américain. Donc, il ne s'agit pas d'une vérité judiciaire, il s'agit bien d'une forme de production un petit peu particulière de la vérité, dont on sent déjà qu'elle est ambivalente entre vérité de l'historien et vérité au fin du soulagement de la victime. Ce qui m'intéresse, et ce sur quoi je veux faire quelques remarques dans le temps trop court qui me reste, c'est d'essayer de voir comment cette vérité ou ces vérités ont été encadrées, quel type d'effet elles peuvent avoir dans le cadre de ces processus de sortie de conflit. Je vais repartir donc de cet élément que je vous présentais comme un élément jugé très novateur par les experts de ces affaires à l'échelle internationale, les commissions de vérité et de réconciliation, enfin auraient ouvert un espace aux victimes. Les commissions de vérité et de réconciliation seraient quelque chose comme une arène permettant de construire un récit historique sur la base de ces témoignages des victimes. Alors ça, c'est l'idée qui est généralement mise en avant. Quand on va regarder de plus près, on se rend compte qu'en fait les commissions de vérité ont toujours dû faire avec une très grande diversité de formes de vérité. Je vais reprendre les catégories employées par la commission de vérité et de réconciliation sud-africaine. La commission de vérité et de réconciliation sud-africaine, qui est considérée comme le modèle à suivre encore aujourd'hui, l'expérience située historiquement entre 1995 et 1998, modèle à suivre pour les acteurs internationaux, la commission de vérité et de réconciliation sud-africaine disait vouloir travailler d'abord sur ce qu'elle a appelé la vérité subjective, et plus particulièrement sur la vérité personnelle et narrative des victimes. Donc l'idée était bien dans le cadre d'auditions des victimes et des proches des victimes par les membres de la commission, de comprendre, de recevoir les récits, et notamment les récits de souffrance de ces victimes, donc de travailler sur la vérité des victimes, et à côté de cette vérité des victimes, de travailler sur une vérité sociale, qui n'est pas une vérité populaire, mais qui est entendue en ce sens-là, c'est-à-dire d'essayer donc de construire le récit historique qui servirait de fondement à la nouvelle Afrique du Sud, sur la base de ces témoignages, de ces paroles privées, de ces narrations des souffrances endurées. Cette ambition-là avait une prétention plus générale. L'idée était aussi de construire la démocratie et de la construire en permettant une délibération sur l'histoire, une délibération dissensuelle sur l'histoire, c'est-à-dire, et c'était l'une des innovations que revendiquait la Commission de vérité et de réconciliation sud-africaine, d'écrire enfin l'histoire ensemble, de l'écrire tous, de l'écrire à partir de la parole des victimes et de l'écrire à égalité. De fait, quand on regarde les auditions de la Commission de vérité et de réconciliation sud-africaine, on est frappé par la volonté de mettre au même niveau les différents acteurs de l'écriture de l'histoire. Donc, l'objectif intéressant de ces dispositifs de commission de vérité et de réconciliation, c'est bien de faire une très large place, la plus large place possible, au discours des victimes. Le tout, néanmoins, adossé, pour les besoins de la cause, à une vérité légale et factuelle, à une vérité de l'expertise, ainsi qu'à cette vérité politique, celle qui consacrait la nécessité du consensus. Donc on a d'emblée, dans les intentions des commissions de vérité et de réconciliation, une diversité de vérités, de modalités d'administration de la vérité qui s'enchasse. Ce qui m'intéresse là, c'est d'essayer de vous montrer comment, au-delà de cette affirmation selon laquelle on dispose enfin d'un espace qui permet de consacrer la vérité de la victime, quel type de logique, quel type de modalité de production de la vérité ont pu s'exprimer dans ces espaces-là. Vérité de la victime peut-être, mais vérité de la victime très nettement encadrée. C'est encadrée d'abord par des contraintes matérielles, et là je peux aller un petit peu plus dans le détail sur les cas. En Afrique du Sud, on a eu pour objectif de faire recueillir des témoignages dans la langue des personnes concernées, c'est-à-dire que tout témoin, toute victime proche des victimes choisissait la langue qu'elle voulait utiliser, disposait d'un temps qui n'était pas contraint et utilisait son langage, n'avait pas à entrer dans le langage dicté par les catégories juridiques ordinaires, pour des raisons budgétaires, mais aussi pour des raisons de domination, de la nécessité d'écrire une histoire à la façon de l'historien, sous la forme de ce rapport à remettre au président. Très rapidement, cette volonté de laisser toute liberté à la victime dans la manière d'écrire l'histoire a été revue à la baisse, et on a encadré très strictement, on est même allé jusqu'à imposer des catégories, des qualifications, des faits endurés par les uns et par les autres à ces victimes-là. De la même manière, les victimes étaient parfaitement libres d'écrire l'histoire, mais on a très rapidement été vers une sélection à la fois des crimes évoqués publiquement dans le cadre de ces auditions et aussi une sélection des victimes dans leur capacité à raconter de manière raisonnable. Je reviendrai là-dessus brièvement. Les souffrances qu'elles avaient endurées. Bref, les contraintes matérielles aussi bien que les nécessités de production d'un consensus, d'une vérité susceptible de faire l'objet d'une large adhésion sociale, ont imposé des contraintes très fortes exercées sur la vérité des victimes. De manière plus intéressante encore, cette logique de consécration d'une vérité des victimes a quelques effets pervers, si l'on veut, qu'il est intéressant de mentionner. Choisir de retenir la vérité des victimes et d'essayer de construire à partir de là une vérité acceptable par tous, une vérité en tout cas qui est susceptible d'être diffusée dans l'espace public, cela implique certains choix que je vais juste évoquer. Ça implique notamment un choix de dépolitisation assez forte des faits que l'on raconte. De manière générale, la consécration de la figure de la victime dans ces instances-là est allée dans le sens d'une dépolitisation des faits, est allée dans le sens d'une tentative systématique pour contourner les récits politiques et notamment les récits militants sur les passés de violence. Je veux juste donner quelques exemples. La plupart des commissions de vérité et de réconciliation ont travaillé sur une définition des victimes particulières et notamment une définition des victimes qualifiée par les souffrances physiques ou les souffrances morales endurées. Et lorsqu'il s'agissait de définir les victimes, par exemple au Chili, on trouvait aussi bien des victimes issues du camp des anciens subversifs, hein, de ces des cibles de la répression militaire que des membres des forces armées et de sécurité. À partir du moment où vous définissez les victimes comme des victimes physiques, comme des victimes de souffrance physique, à partir du moment où vous définissez les victimes par rapport à l'expérience du deuil, par rapport à la perte des proches, vous avez affaire à un statut qui est très englobant et qui ne permet plus d'essayer de discriminer la valeur des causes politiques défendues par les uns et par les autres. Vous égalisez les statuts dans une commune souffrance au détriment de certaines revendications plus militantes qui étaient mises en avant par certains groupes, non plus de victimes, mais de survivants, c'était le terme qui était choisi. Zéro minute, on me dit zéro minute. Ce qui m'intéressait là de montrer, c'était comment ces institutions qui sont supposées être des institutions qui consacrent une autre manière d'écrire l'histoire et qui notamment donnent une importance réelle au récit des souffrances sont des institutions qui mélange de manière assez instable différents registres de production de la vérité, qui sont aussi des registres très experts et qui encadrent très fortement ces récits victimaires. Je me tais.